Je dis que les légions romaines dévasteront nos terres et réduiront à néant nos coutumes et nos croyances.
Bonjour, bienvenue dans le fil de l'histoire. Aujourd'hui, cinquième et dernier épisode de notre série « Connaissons-nous vraiment les Gaulois ?» Question que nous nous posons avec l'archéologue et historien Dominique Garcia. Dans l'épisode précédent, nous avons raconté la conquête par Jules César de la Gaule qui s'achève en moins 46 par la défaite de Vercingétorix à Alésia. Aujourd'hui, la redécouverte tardive et très intéressée des Gaulois. À partir de quand les Français ont-ils commencé à s'intéresser à leur passé gaulois, à ceux qui allaient devenir nos ancêtres les Gaulois? Dans la droite ligne de Voltaire, qui, je le rappelle, affirmait en se pinçant le nez qu'il fallait, je cite, « détourner les yeux de ces temps horribles qui font la honte de la nature », pendant longtemps, les érudits ont regardé ailleurs et ne se sont intéressés qu'au passé romain de la France, le seul noble, ou bien à l'histoire dynastique des rois de France depuis Mérovée et Clovis. C'est au XIXe siècle que les historiens, en quête d'un passé national enraciné dans un terroir, s'intéressent enfin aux Gaulois. En 1828, paraît la première grande histoire des Gaulois sous la plume d'Amédée Thierry, un immense succès. Ce livre, réédité une dizaine de fois, a l'avantage sympathique de faire parler des Gaulois, mais plus ennuyeux, il pioche sans vergogne dans les seuls textes disponibles, ceux des auteurs grecs et romains, et c'est lui, Amédée, qui va distiller dans nos esprits tous les stéréotypes des Gaulois aux cheveux blonds, teint blanc, haute taille, grande gueule un peu canaille ou franc-parler, fait pour la guerre et bons artisans. Des Gauloises, vous remarquerez, on ne dit pas grand-chose. Et c'est le même Amédée Thierry qui invente la théorie selon laquelle nous, Français, aurions tous pour ancêtres les Gaulois et le plus valeureux d'entre eux, Vercingétorix. Amédée Thierry va jusqu'à parler de « race gauloise », une race dont descendraient, je cite, « les 19-20e d'entre nous ».
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
À la fin du XIXe siècle, après la guerre de 1870, qui fait perdre à la France l'Alsace-Lorraine, puis après l'institution par la Troisième République de l'école laïque, les Gaulois prennent le statut quasi officiel d'ancêtres des Français. Et sans qu'on leur ait rien demandé, ils entrent dans les manuels scolaires avec leurs casques et leurs grandes moustaches blondes. Vision rassurante, les Gaulois, comme les Français, avaient subi la défaite en raison de leur division. Mais un jour, les Français en sont certains, ils récupéreront leur territoire perdu derrière la frontière du Rhin. Cette frontière naturelle dont parle déjà Jules César. La référence aux Gaulois permet aussi de justifier l'idéologie laïque et républicaine, celle d'un État sans dieu ni roi. Par la même occasion, elle justifie aussi la politique colonialiste de la France. De même que les Gaulois, sympathiques mais vraiment primitifs, ont été civilisés grâce à la conquête romaine, de même les peuples des pays d'Asie ou d'Afrique, conquis par la France, ont tout à gagner de la colonisation. Dominique Garcia, la connaissance sur les Gaulois a parcouru un étonnant chemin, depuis les Gaulois barbares qui pratiquaient des sacrifices humains jusqu'aux héros Vercingétorix, dont la statue, c'est assez étonnant, cette statue de 7 mètres de haut édifiée sous le Second Empire sur le site d'Alésia, donc en Bourgogne, qui porte un bandeau de bronze sur lequel on peut lire « La Gaule unie, formant une seule nation animée d'un même esprit, peut défier l'univers ». Et en dessous, il y a écrit « Napoléon III, empereur des Français, à la mémoire de Vercingétorix ». Qu'est-ce que cette statue, Dominique Garcia, nous dit du regard porté sur les Gaulois au XIXe siècle ?
Alors là, déjà, on peut essayer de décrire cette statue monumentale en bronze du Millet, qui représente Vercingétorix avec deux éléments qui peuvent faire sourire aujourd'hui. Un, comme on ne connaissait pas le visage de Vercingétorix, le sculpteur va lui donner le visage de Napoléon III. Et donc ça, c'est frappant, mais voilà, le héros national est représenté là de manière monumentale, et c'est l'empereur. Et ensuite, comme l'archéologie à l'époque était naissante, il est vêtu d'objets de toute période, et donc là, ce Vercingétorix Napoléon III, notamment une cuirasse de l'âge du bronze, on va dire qu'il y a 500 ou 600 ans de plus que ne l'était le guerrier gaulois. Ensuite, le texte est extrêmement clair. Il est là à la fois pour donner un élément d'unité nationale, depuis effectivement la Révolution, où on essaie de construire une histoire de France et une histoire du peuple. Il faut évoquer ces populations qui existaient avant les Francs, dont descendaient les rois de France, et donc on va évoquer cette strate antérieure aux Francs, qui touche effectivement une majorité de la population, qui serait donc les Gaulois. Et donc ça permet à la fois d'unifier l'ensemble de ces peuples, ce qui était le cas au XIXe siècle dans les différentes provinces et régions, y compris dans les espaces coloniaux, et de montrer que si effectivement ils obéissent au maître, eh ben à ce moment-là on arrivera à avancer, et ça c'est Napoléon qui se le propose. Il y a à la fois effectivement de l'idéologie, de la propagande, il y a aussi quand même et surtout le développement d'une histoire et d'une archéologie celtique à ce moment-là. Napoléon III va mettre en place une académie qu'on appelle la topographie des Gaules, où des savants et des militaires vont parcourir la France avec la guerre des Gaules de César pour retrouver les champs de bataille, pour retrouver les sites, et c'est à ce moment-là effectivement où se fait la localisation du site de Jargovie, celui d'Alésia, etc.
À partir de quand la connaissance sur les Gaulois va s'émanciper donc de ces vieux clichés? Est-ce que c'est justement grâce aux travaux des archéologues, ceux du 19e dont vous parlez, Dominique Garcia, mais peut-être aussi ceux du 20e surtout?
C'est essentiellement au 20e siècle, parce que au 19e, au début du 20e siècle, l'archéologie va être là pour illustrer l'histoire. On va envoyer des archéologues pour aller fouiller sur les traces de César, et en laissant tomber tout le reste. D'où le fait qu'on accentue la caricature du Gaulois, de leur ville, de leur tradition, de leur manière de faire. À partir des Trente Glorieuses, des années 1960, 70, 80, la France va se moderniser, construction de TGV, d'autoroutes, de ZAC, de zones logistiques, et aujourd'hui de parcs éoliens. Et à ce moment-là, on va pratiquer ce qu'on appelle l'archéologie de sauvetage préventive. Les archéologues interviennent en préalable aux travaux d'aménagement pour sauver le patrimoine avant que l'espace soit aménagé. On essaie de tracer un cercle vertueux. Au fur et à mesure que notre pays se modernise, on essaie d'en savoir plus. Mais le biais intéressant, c'est que cette fois-ci, l'archéologue ne va pas aller vers le connu, il va aller vers ce qui est à sauver. Et donc, grâce à cette archéologie préventive, on a pu fouiller les carrières, les champs, les nécropoles, les sanctuaires, et peupler cette Gaule qui était présentée dans les manuels et dans Astérix comme étant couverte de bois, par facilité, on le présentait comme un grand désert français.
Alors, quelles ont été justement, Dominique Garcia, les principales découvertes à partir des années 50 qui ont changé notre connaissance et notre regard donc sur les Gaulois?
Alors la Dame de Vix que j'évoquais tout à l'heure, 1953, en Bourgogne, une découverte extraordinaire.
Oui, un paysan, Monsieur Moisson.
Voilà, qui va découvrir une tombe, fouillée très rapidement au mois de décembre sous la neige, mais qui a livré un cratère grec, qui est le plus important découvert au monde.
Un cratère, c'est un vase.
Un grand vase grec.
Un grand vase, immense, plus d'un mètre.
1,65 m, ouais. 1000 litres de vin.
Magnifique.
Et qui témoignait justement des relations du monde celtique avec le monde méditerranéen. On pourrait évoquer aussi, à partir des années 1980, la fouille de la capitale des Éduins, en l'occurrence Bibracte, dans le Morvan. Là aussi, c'est une ville de plusieurs centaines d'hectares, sous les bois aujourd'hui, c'est-à-dire à partir de la période romaine, la ville a été abandonnée au bénéfice d'Autuns, et aujourd'hui, enfin depuis maintenant 40 ans, les archéologues redécouvrent la ville sous la forêt, et donc on approche les artisans, on approche l'organisation des maisons, on voit justement les relations qu'ils entretenaient avec les populations plus orientales et les populations de la Méditerranée.
Et on a découvert en 2015 la tombe de Lavaux, en Champagne, près de Troyes.
On est là, effectivement, dans la banlieue de Troyes, sur la commune de Lavaux, et lors d'une construction, l'INRAP a pu découvrir...
Que vous dirigez.
Voilà, une tombe extraordinaire qui a livré un mobilier, là aussi, d'origine étrusque et d'origine grecque. Et pour la première fois, les documents vont être exposés à partir du 24 janvier à Troyes, et on va y avoir une très belle exposition qui va permettre de donner un coup de projecteur projecteur sur ces sociétés celtiques et la place presque géopolitique qu'elles occupaient en Europe et en Méditerranée.
Merci beaucoup Dominique Garcia. Je conseille vivement la lecture de votre livre de vulgarisation. Ça s'appelle Les Gaulois. C'est édité au CNRS dans la collection À l'œil nu Histoire. C'est petit, concis, précis, plein d'humour, avec des illustrations amusantes de Jérémy Perraudeau. C'est la fin pour aujourd'hui du Fil de l'Histoire. L'émission a été réalisée par Claire Destacan, assistée d'Anne-Cécile Perrin et Frédéric Martin, à la technique Mathias Alléon et au mixage Rémi Sistiaga. Vous avez pu entendre Lullaby for Kane de Sean O'Connor et Dis-moi d'Aya Nakamura et Shensi, des titres choisis par Jean-Baptiste Audibert. Vous pouvez vous abonner au podcast du Fil de l'Histoire sur l'appli Radio France. Comme toujours, j'attends vos commentaires avec impatience sur la page de l'émission ainsi que sur Facebook.